France en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission.
À peine est-il aperçu que déjà il s'évade. Le muscardin est un petit rongeur aux couleurs d'or qui s'est resté si secret que même sa répartition est très imprécise. Animal des bordures, des frontières, notre croque-noisette habite les haies et les lisières. Comme la pigrièche, par exemple, la perdrix, l'orvet, le petit sylvain ou le flambé. Notre petit rongeur noctambule, quoique officiellement protégé, n'a pas vraiment la célébrité du grand panda. Et cependant, le muscardin fait beaucoup plus que de résider près des noisetiers. Il les plante lui-même. À contempler depuis le ciel des bocages, on s'émerveille de ces croisillons végétaux qui quadrillent le panorama. La haie borde les champs, découpant le paysage de sa verdure immense. Mais cet alignant des arbustes et des arbres fait beaucoup plus que cela. Et pourtant, ce fut une guerre contre les arbres et contre les haies qui s'engagea. Des milliers de kilomètres de haies ont été découpés, ravagés, arasés, pour organiser le remembrement des parcelles et améliorer la production agricole. Les techniciens ont détruit les grands aliments végétaux qui réduisaient les manœuvres de leurs immenses machines agro-industrielles. Pendant des années, la haie n'était plus qu'un obstacle à détruire, une calamité à démolir. En plus, selon eux, la haie dissimulait quantité de vermine. Qu'il s'agisse du campagnol, du crapaud, du mulot, du jais ou de la grive, les rongeurs et les oiseaux partagent une réputation de ravageurs et de nuisibles. Il est vrai que leur goût immodéré pour les plantes, les fruits et les légumes ne favorise pas une autre image. Ils assaillent de coups de bec et d'incisives meurtrières nombre de végétaux. Et, face à eux, l'agriculteur soutient une résistance guerrière têtue. Mais en mangeant les pissenlits par la racine, ces animaux apportent au monde un incroyable trésor. Sait-on que le jais plante lui-même les chênes? Sait-on que les animaux sauvages régénèrent la haie, transportant 1000 graines, 1000 champignons? Notre petit ami, le campagnol roussâtre, disperse et inocule des mycorhizes, ces micro-champignons endogés en symbiose si importante pour faire vivre les arbres. Et en dispersant les pollens, les mycorhizes, les noisettes, les campagnols et le muscardin, procurent aussi aux haies d'indispensables essences. La haie a besoin des animaux et le leur rend bien. Les différentes strates végétales, alternant herbacées, arbustifs et arborées, se complètent et s'alimentent. La haie ouvre des chemins de traverse, favorisant les échanges génétiques des animaux sauvages et autres pollinisateurs, apportant le couvert et l'abri nécessaires. les différentes strates végétales jouent un rôle essentiel dans le soutien et dans la qualité des eaux, comme effet brise-vent, contre l'érosion, et agissant même sur la fertilité des sols. On le voit, outre la diversité qu'elle accueille, la haie bocagère, tout comme la lisière, constitue un facteur majeur dans le fonctionnement des écosystèmes. En abritant les rongeurs et en favorisant les échanges, les boisements linéaires fournissent une fonction essentielle pour le maintien et la propagation de la biodiversité. La dispersion des gènes s'avère possible grâce à ce réseau végétal qui passe de champ en champ. Le bocage suscite cette symbiose inédite entre animaux et avenir des plantes. Et dans cet improbable fouillis de diversité végétale, notre petit muscardin survit encore en aménageant le monde naturel et les arbres. Alors peut-on laisser les cultivateurs découper les haies en suivant les ordres et les indications de l'INRA et d'autres structures agricoles? Et notre muscardin doit-il vivre en secret? Il faudra évoquer l'effet lisière et l'effet corridor. Sur Radio Libertaire, nous allons en discuter âprement et découvrir en détail cette écologie de la nature qui disperse les gènes et fait coexister cette incroyable biodiversité sur notre petite planète. Et en parlant des destructeurs, des haies et du bocage, nous risquons bien de voir les choses en noir. A la esquina del tapón le papi se libera más con patatas bravas o tortillas platas. Doqui toque de la plancha, romón de la mancha, catalano mallorquín, Montserrat tupín, bacarmín, cocina de extinto terremoto, contra académica, Carmen caminanda, vale pinus pine negarún, andalfabe de la cazuela, besela la manía abuela, braco y Pepe Carvalho, industria estandel, lo glub glub swing le bouillon, frisus mijoto son, cuisant jubilación, la mimoni pasa siquiton, le gamel medicine hami, los platos combinados y si free, big band de sans salinui, en la boca, estoy le pareleadas, el le palé, savou les aiolis. Comme une émulsion de pagaille, comme de trolley, ça c'est pas épicé. Balsa sin sansa ou sabine, sin créolisé, bouillalisé. Il est grillé, gourmé.
L'Esquinade par André Mainvielle. Nous sommes, vous êtes, sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, une radio associative sans maître, sans lieu et sans publicité. Et nous allons aujourd'hui discuter du croque-noisette, le petit muscardin des haies.
Quelle tristesse de se réveiller, de devoir se lever. Ne fallait-il pas nous apprendre à dormir une première fois? Nos parents sont donc les coupables. C'est ce qu'affirmait Jean Giraudoux, et comme dans sa famille, les Gliridés, on dort beaucoup, notre petit muscardin est un grand dormeur. Et vous, Gaëlle Coblot, vous êtes bien réveillée ce matin?
Ça va.
Bonjour Gaëlle. Alors évidemment, je vous reçois aujourd'hui pour parler des haies et du muscardin, de sa nature et de son écologie. Donc vous êtes Gaëlle Coblot, naturaliste dans le groupe mammalogique et herpétologique du Limousin, et vous travaillez sur la faune sauvage, principalement du Massif Central. Comment devient-on naturaliste?
Alors, je ne crois pas qu'on devienne naturaliste, je crois qu'on est naturaliste.
Piqué on l'est de la pas. Base.
on aime la nature depuis qu'on est tout petit, généralement. Et puis, on est dehors. Et puis, en fait, on va chercher le métier qui va nous permettre de répondre à ce besoin. Et donc, voilà, on fait des études parfois. Et puis, on a des fois de la chance de décrocher un boulot dans une structure qui nous permet de faire ce qu'on aime.
Et vous avez fait des études longues pour arriver à ça? Ce sont des connaissances de terrain?
Alors, il y a une part de connaissances de terrain. Et puis, il faut parfois, on demande certains diplômes. Alors oui, j'ai fait des études en écologie. J'ai un master 2 en gestion de la biodiversité.
Et donc, vous observez la répartition et l'habitat des mammifères sauvages et des amphibiens et des reptiles du Limousin. Et le GMHL s'occupe de réaliser des atlas et des suivis sur le devenir des espèces.
Oui, tout à fait.
Alors, vous travaillez aussi sur les grenouilles, notamment sur le petit crapaud sonneur, un petit crapaud forestier, c'est
ça ? Oui, tout à fait, oui. C'est quelque chose qui nous occupe pas mal, le sonneur à ventre jaune, qui est un des emblèmes du Limousin.
Le sonneur à ventre jaune.
Voilà, Bombina variegata.
Parce qu'il a le ventre tout jaune.
Jaune et bleu ou jaune et noir, oui.
Mais Gaëlle Coblot, votre intérêt porte avant tout sur les mammifères sauvages. Alors, je vais vous inviter pour nous parler d'un petit rongeur absolument méconnu, le muscardin. Alors Gaëlle Coblot, c'est un peu une sorte de minuscule écureuil avec un pelage tout doré, avec une longue queue épaisse, mais qui est finalement plus proche d'autres animaux que de l'écureuil.
Tout à fait, c'est un animal qui fait partie de la famille des gliridés, anciennement les myoxidés, parce qu'on aime changer les noms. Donc les gliridés qui en France regroupent trois espèces, les loirs, les lairaux, les muscardins, donc voilà.
Et c'est un animal qui est vraiment tout petit, je crois qu'il pèse à peine 40 grammes, c'est ça ?
Maximum, oui, une quarantaine de grammes pour les adultes une fois qu'ils sont un peu, qu'ils ont bien mangé en fin d'été.
Quand il a mangé un tripou du Limousin,
voilà,
il
exactement.
Pèse à peu près 40 grammes. D'accord. Et pour identifier la présence du muscardin dans son jardin, près d'une haie ou sur une lisière forestière, vous, Gaëlle, vous cherchez des noisettes.
Entre autres choses, oui, on cherche des noisettes. C'est vrai que c'est un animal qui est assez discret et il va falloir développer un peu des trésors d'ingéniosité pour pouvoir le retrouver.
Et donc finalement, c'est uniquement en observant les traces qu'il peut laisser derrière lui, comme par exemple les noisettes
Alors, il y a effectivement, on recherche soit les traces ou les indices, donc le nid du muscardin qui est particulier aussi, fait différents types de nids, mais par contre qui sont conformés de la même manière, plus ou moins. Donc on peut chercher les nids, on peut chercher les noisettes, on peut chercher également à essayer de voir les individus alors, par différents biais, par exemple. Soit on lui met ce qu'on appelle les nest tubes, les tubes nids, c'est des petits tubes à section carrée de 5 cm de côté, long de 15 cm, dans lesquels il y a une petite tirette en bois avec un fond qui fait un mur. Et le muscardin aime bien les faire ses nids aussi dans les cavités, donc il va pouvoir les utiliser. On peut lui mettre carrément des nichoirs, comme des nichoirs à mésanges, mais où le trou en fait est orienté face au tronc pour éviter que les mésanges viennent dedans. C'est pareil, il peut aller faire son nid là-dedans. Après, avec le développement des techniques de génétique, on peut faire aussi ce qu'on appelle les tubes à poils. Donc, c'est des petits tubes de PVC qui sont découpés. Dedans, il y a une petite plaquette recouverte de scotch double face. On met un appât souvent avec de la crème de noisette parce qu'il est gourmand.
C'est ce qu'il adore. Voilà.
Et quand il passe dans le tube, ça lui arrache quelques poils. Et avec la génétique, ou même avec l'étude du poil, mais c'est un peu compliqué. Avec la génétique, maintenant, on peut savoir s'il y a du muscardin ou pas. D'autres techniques sont en cours de développement. Alors, les traces, donc les pièges à empreintes, ils passent sur un petit pad où il y a de l'encre. Alors, moi, j'utilise que de l'encre végétale mélangée avec du charbon, de la poudre de charbon. Mmh. C'est pas toxique. Ça va pas lui faire de mal. Il passe après sur un papier. Et on peut reconnaître les empreintes des gliridés parce que leurs pelotes plantaires, donc après leurs doigts, ce qui fait leur paume, sont en triangle.
Ah d'accord. Donc c'est effectivement une technique qui est fiable. Mais il y a une autre technique d'étude qui est utilisée par les spécialistes qui est aussi très très fiable et très très facile à évaluer. C'est consiste tout simplement, là encore, à récolter des noisettes grignotées par le rongeur lui-même, puisqu'un observateur aguerri peut en effet déterminer si la noisette a été décortiquée ou non par un muscardin. À quoi est-ce qu'on voit ça ?
Alors, à la forme du trou. Alors, sur les noisettes anciennes, le trou est parfaitement rond et lisse, comme s'il avait été passé au papier de verre. Parce qu'en fait, le muscardin, quand il va manger la noisette, il va aller, il va pas à perpendiculaire du trou, il va aller dans le sens du trou. Alors c'est assez difficile à expliquer sans mettre d'image, mais il va rogner le long de la bordure, ce qui fait qu'il n'y a pas le trace de marque de dents. Alors que les mulots et les campagnols vont mettre la tête un petit peu dans le trou si on veut, et puis rogner et faire tourner entre leurs pattes. Et donc on va avoir tout le long de l'ouverture des petites traces de dents qui sont assez visibles. Parfois il y a certains mulots qui sont coquins et qui font un peu voilà, comme le muscardin.
Mais pour un observateur aguerri, on va dire qu'un trou rond est régulier sur une noisette avec des bords internes lisses.
Voilà.
C'est quasiment sûr que c'est du muscardin.
Voilà.
Donc on fait appel à vous, on vous passe un coup de téléphone et vous venez vérifier que la noisette a bien été rongée par un muscardin.
Voilà.
Vous arrivez d'avoir des faux des fois, non des...
Alors, en fait, on a plus souvent des choses qui ne sont pas rongées par le muscardin, malheureusement, parce que le résultat, en plus, surtout chez nous, dans le Limousin, où il y a très peu de muscardin, on est en limite d'air de sa répartition. En gros, sur toutes les centaines de noisettes qu'on a récupérées, il n'y en a qu'une qui s'est révélée être du muscardin.
Ouais, en effet, c'est pas beaucoup. Une non. sur 100, donc. À peu
une
peu.
Sur, ouais, même plus
sur
de 100.
Plus que ça.
Ouais, ouais, sur peut-être 250.
Il y a beaucoup de gens qui vous envoient comme ça des coquilles de noisettes rongées.
Alors, malheureusement, non. On, voilà.
Alors, je ne sais pas si les auditeurs entendent, mais Gaëlle Koblos dit qu'elle aurait besoin d'autres noisettes, enfin, coquilles de noisettes vides rongées par des gliridés.
Voilà, c'est vrai, c'est toujours intéressant. Ouais, on est à la recherche.
Voilà. Alors l'autre particularité quand même des gliridés de nos régions, donc la famille du muscardin, c'est quand même de passer l'hiver en dormant. C'est les Allemands qui vont appeler même le Lérot le Siebenschläfer. Alors comme je sais que vous êtes d'origine alsacienne, je pense que je prononce pas trop mal, on ne sait pas trop. Tout ça parce que notre animal dort 7 mois. Et on connaît aussi l'expression « dormir comme un noir » pour désigner un sommeil très profond. Alors le muscardin, il va passer à peu près la moitié de son temps, c'est ça, à dormir ?
À peu près. Alors, à dormir, plus ou moins. En fait, sa dormance, sa torpeur et son hibernation sont déterminées par la température extérieure. En dessous de 6 degrés, il est dans une hibernation, il dort profondément.
Alors, ce qu'on appelle une hibernation, c'est quand on va mobiliser la graisse métabolique pour survivre et qu'au contraire, toute la température et toutes les fonctions métaboliques chutent.
Oui, oui. Sa température corporelle va être calquée a priori sur celle de l'extérieur jusqu'à 1 ou 2 degrés. Il va se maintenir à cette température-là, même si les températures extérieures passent dans le négatif, pour pas geler évidemment, et bon, pour pas mourir. Au-dessus de 15-16 degrés, il va commencer à pouvoir se réveiller. Et donc, pendant son hibernation, qui dure à peu près... Alors, dans la littérature, sachant que tout a été fait quasiment sur muscardin dans les pays du nord et de l'est de l'Europe.
Oui.
La Lituanie, par exemple, où il y a eu un énorme travail qui a été fait sur le muscardin, mais en Angleterre aussi, on dit que c'est d'octobre jusqu'à mars-avril. Mais il peut se réveiller plusieurs fois. D'ailleurs, il a plusieurs, il dort dans des nids qui sont au sol, et il a plusieurs nids. Il peut avoir une dizaine de nids pendant son hibernation, où il va changer. Donc, dès qu'il fait assez chaud, il peut se réveiller.
Alors, en fait, il s'agit d'abord d'un système donc, d'hypothermie régulée pendant lequel l'animal va ralentir son métabolisme. Alors, c'est une phrase de Buffon que j'aime bien. Il disait « Le loir dort comme la marmotte, mais c'est improprement qu'on parle de sommeil, car le rétard appelle plutôt un engourdissement dû au refroidissement du sang à température juste au-dessus de la congélation. » Et en effet, ces hibernants vont donc aménager un terrier particulier qu'on appelle l'hibernaculum.
L'hibernaculum,
pardon.
Je sais que pour les reptiles, par exemple, on parle d'hibernaculum. Chez le muscardin, je n'ai jamais entendu ce terme-là, mais ce qui ne serait pas idiot, puisqu'en fait, il passe effectivement, il hiberne dans un petit endroit.
C'est un nid qui va être modifié pour quand même éviter les variations thermiques importantes. Et donc, une autre manière d'éviter les déperditions thermiques, c'est de se mettre dans une position particulière.
Voilà, il se roule en boule et il met sa queue devant son visage. Donc, même si par miracle ou par malheur pour lui, on le trouve en hiver, en fait, le temps qu'il sort de la torpeur, ça lui prend du temps. Et on peut sortir un petit muscardin en forme de boule avec la queue rabattue sur le visage. Il ne bouge pas. C'est vraiment comme une petite boule. Et son nid d'hiver, c'est... C'est un nid qui est constitué de feuilles, de plusieurs couches en fait, de feuilles et de mousse, tout est sec. Et il va, les parois font plus de 2 cm, le nid en diamètre il fait 10-12 cm. et il est enterré soit juste sous le sol, soit dans la litière, à moitié émergent, et il va occuper tout l'espace à l'intérieur du nid, et il est totalement en fait comme une noix dans sa coque.
Ouais, et il bouge plus évidemment de là. Alors les facteurs qui vont favoriser le rythme de la de l'hibernation, c'est principalement la photopériode et les températures, mais on a mis également en évidence l'existence de facteurs internes, notamment chez le spermophile. Je ne sais pas si vous savez ça, puisque en injectant le sang d'un spermophile qui hibernait dans un spermophile qui n'hiberne pas, on a constaté que le spermophile non hibernant se mettait à dormir et à devenir hibernant. Bien sûr, les facteurs externes extérieurs de l'hibernation sont importants. Donc la photopériode, c'est précisément le passage du jour et de la nuit.
Oui.
Racontez-nous ça, à quel moment il décide?
Quand
le jour décline.
Quand les jours déclinent et il se réveille quand les jours remontent. Alors a priori, dans ce que j'ai pu lire récemment dans la littérature, ce serait quand même plutôt la température qui va faire qu'il est plus ou moins actif.
D'accord, la température va déterminer son activité et la synchronisation peut se faire avec la lumière. Mais voilà. Comme il est dans un nid, il est dans le noir.
Il est dans le noir.
Et c'est un animal nocturne qui plus est, donc ça ne doit pas être très évident.
Tout à fait, oui.
Mais alors, il y a donc cette hibernation qui a été un véritable phénomène métabolique qui modifie complètement les qualités de l'animal. Mais on parle aussi de torpeur à d'autres moments donnés, au printemps, en été.
Oui, alors en fait, il va rentrer en torpeur à différents moments de la journée. C'est pareil, c'est la température qui va jouer là-dedans, a priori en dessous de 6 degrés, en dessous de 12 degrés. Il va rentrer en torpeur, ça va lui permettre de devoir moins dépenser d'énergie pour se réchauffer.
Un économe en quelque sorte.
Ah oui, tout à fait, c'est un économe. Et aussi quand il fait très chaud, il peut se mettre en torpeur, donc il peut se mettre en torpeur en journée, un peu n'importe quand, et surtout en été, là, quand il fait très chaud, très sec, comme les dernières années.
Alors ça, c'est propre à des animaux qui ont effectivement du mal à totalement réguler leur température interne et qui peuvent être soumis à des fortes chaleurs estivales ou à des refroidissements importants, ce qui est le cas, évidemment, paradoxal dans le Limousin. Tout le monde sait qu'il y fait à la fois très chaud et très froid. L'animal va donc réajuster sa température interne en diminuant légèrement lorsqu'il fait trop chaud ou trop froid, tout ça pour pas gaspiller d'énergie. On parle de torpeur estivale, mais ça dure combien de temps à peu près? C'est un animal qui est capable de s'endormir plusieurs heures?
Alors en été, ce que j'ai pu lire, c'est que en fait, il va dormir en journée, mais il va être actif la nuit. Donc pendant la journée, donc le muscardin est principalement nocturne, mais il y a quand même eu des observations et des études qui ont montré, il y a des muscardins qui ont été équipés avec des petits colliers émetteurs et ils ont pu être suivis, que même en journée où il est normalement en torpeur, il peut sortir de son nid, se balader. Et puis revenir dans son nid. Surtout les femelles qui sont allaitantes.
D'accord. Et en fait, quand il sort de son nid comme ça, c'est toujours plutôt au crépuscule, plutôt à la tombée de la nuit, plus tard encore?
Non, c'est au crépuscule, à la tombée de la nuit. Et puis il va revenir dans son nid avant que les premières lueurs du jour apparaissent. A priori, en général, il fait comme ça.
Pour essayer de bien se dissimuler dans sa petite
huée. C'est un animal
dans sa petite
peut se faire manger par différentes autres espèces. Et alors, il va se déplacer déjà dans des endroits où il est difficilement accessible. Et le fait d'être vraiment dans un... Enfin, de sortir que quand il fait nuit noire lui permet d'échapper à une partie des prédateurs.
Alors, physiquement, on le reconnaît comment, en fait? Il est velu, il est doré?
Oui, alors il faut imaginer comme une souris qui fait environ 7 cm de corps, 7 cm de queue, avec une queue qui est donc assez longue, fine, pas toute poilue comme celle du loir, ses poils sont assez courts et son pelage est plutôt doré, brun doré sur le dos, un peu plus clair, un peu plus crème sur le ventre. Il a une tête qui est très ronde avec des petites oreilles très très rondes qu'on arrive quand même à voir et des grands yeux noirs comme il est nocturne, un museau assez arrondi. Une autre de ses caractéristiques, c'est la taille de ses vibrisses, donc ses poils sur le museau qui lui permettent de se déplacer la nuit. Ses moustaches, tout à fait, qui sont très longues. Et il a des poignées qui pivotent et presque des pouces opposables pour lui permettre de se déplacer dans les ronciers, par exemple.
You are the real man. Once away your tears. Once away. Oh, so
Le groupe de métal Korpiklani nous chantait les mystères de la forêt.
Il existe beaucoup d'histoires de noisettes et de forêts magiques. Le soir de Noël, des enfants attendent la visite de leur oncle Drosselmeyer. Il est horloger et leur apporte souvent de bien étranges jouets qu'il fabrique lui-même. Il raconte aussi de fabuleuses histoires. Clara reçoit de son oncle un casse-noisette. Et pendant la nuit, une merveilleuse féerie commence. Après une bataille épique contre le roi des souris dans le salon, tous les jouets s'animent et le casse-noisette se transforme en prince pour remercier Clara de l'avoir aidé. Véritable symbole du passage de l'enfance à la vie adulte, le casse-noisette est un ballet fait sur un conte d'Hoffmann et mis en musique par Tchaïkovski en 1816, qui raconte ce rêve merveilleux, et puis bien sûr ensuite le départ en traîneau du prince qui va entraîner Clara, la petite fille. Alors est-ce que notre petit ami le radeur entraîne aussi les jeunes filles vers une vie de princesse? Je ne sais pas, mais je reçois aujourd'hui Gaëlle Coblot du groupe Mammalogique du Limousin pour parler du muscardin. Et ce que l'on sait, c'est que le muscardin bouge beaucoup. Noctambule, il vagabonde dès la venue du printemps, en se réveillant aux premières chaleurs de la nuit. Et évidemment, ce petit animal, dans ce réveil, va passer son temps à chercher de la nourriture. Contrairement au hamster et au écureuil, je crois qu'il ne fait pas de réserve alimentaire.
Non, il ne fait pas de réserve.
Ça veut donc dire que tout ce qu'il attrape dans la nuit, il le mange immédiatement.
Ouais.
Il le décortique. Au menu, il y a quoi alors exactement?
Alors, ça va dépendre de la saison, puisqu'il va manger ce qu'il trouve autour de chez lui. Donc, il va commencer par manger des petites pousses. Et puis, en fait, bien que ce soit un rongeur, il est quand même de la famille des gliridés qui ont un régime alimentaire qui est plutôt varié, à tendance un peu omnivore. Donc, il va manger, quand il sort d'hibernation aussi, de la protéine animale, donc des petites chenilles, des petits papillons, tout ce qui peut lui tomber sous la patte et qui se mange, va être le bienvenu pour pouvoir refaire un petit peu de réserve suite à la fin de l'hiver qui a été assez dur pour lui puisqu'il a perdu toute sa graisse.
Il faut qu'il reconstitue évidemment tout son poids.
Pour reprendre un peu d'énergie.
Alors il consomme tout type de graines. Des noyaux de cerises.
Des noyaux de cerises, noyaux de prunelles.
Des aubépines.
Tout à fait,
ouais.
des senelles.
Toutes sortes de fruits finalement.
Tous les petits fruits qu'on va trouver dans les haies. Il adore aussi les fruits de bourdaine par exemple. Les pousses.
C'est bon à manger ça, les fruits de bourdaine?
J'ai jamais...
Quoi, vous n'avez pas goûté les fruits de bourdaine? Comme quoi vous ne vous mettez pas à la place de votre animal fétiche.
Et en plus c'est vrai, on a beaucoup de bourdaine en Limousin. Alors c'est vrai que je pourrais essayer. Je suis pas sûre que ce soit bon pour la santé. Et il va manger aussi des fleurs. Il va manger des petites pousses.
Et en fait, pollen, en fait, hein, je crois qu'il ingère.
Oui, ouais. Et en fait, il va modifier son régime donc en fonction de la saison, puisque les fleurs ne vont pas apparaître tout en même temps. Les fruits vont venir après les fleurs. Et à la fin de la saison, bah, quand c'est la période des noisettes, là, c'est gras la noisette, il aime bien. Donc il va manger ce qu'il peut pour constituer sa réserve de graisse.
Oui, d'ailleurs, quand on le dérange, il est capable de se tenir comme ça, sans bouger pendant plusieurs minutes, ouais. En s'accrochant juste par ses petites pattes.
Ouais, alors moi, les fois où je l'ai vu, il a plutôt eu un réflexe de monter dans l'arbre, mais de se mettre pile à hors de portée de main,
d'accord.
De bras. Comme s'il arrivait à calculer à peu près quelle était la longueur de mon bras.
Il est aussi capable, bien sûr, de manger des bourgeons. Il en ronge pas mal. Il aime bien le sucre, je pense, qu'il arrive à avoir dans cela. Il attaque aussi les arbres, l'écorce ou des choses comme ça.
Alors, il peut manger des petites écorces, mais alors c'est une petite espèce qui va sans doute... il en mange un petit peu. Il en mange pas beaucoup de l'écorce. Et il va, à mon avis, manger que sur le bout des rameaux, ce qui est tendre. Il va pas s'attaquer au tronc comme le castor, par exemple. Il n'est pas équipé.
Alors, on a vu qu'il était capable de manger aussi des insectes. Dans son régime alimentaire insectivore, il collectionne à peu près tout ce qu'il trouve ou il a des préférences?
Non, à ma connaissance, il va manger ce qu'il peut attraper. Les chenilles, par exemple, il aime bien les chenilles parce que ça bouge pas trop vite.
Ça, c'est clair.
Ça s'envole pas. C'est quand même pas un animal qui est extrêmement
Donc plutôt
rapide.
Des lépidoptères nocturnes ou des choses comme
ouais,
ça?
Ouais, des choses qui sont posées sur les feuilles.
D'accord. Donc tout ce qui peut être larves, chenilles, etc. Voilà. Est-ce qu'il peut s'attaquer à l'occasion à des animaux plus gros comme des souris ou des musaraignes?
Non, pas à ma connaissance. En plus, c'est une espèce qui se défend, soit a priori assez peu, qui a par contre tendance à se faire attaquer.
Les musaraignes, c'est des animaux très agressifs, hein, même si c'est tout petit. Hein. Une musaraigne, ça vous tue un campagnol en moins de deux. Hein. C'est assez impressionnant. Ouais. Par contre, j'ai vu dans le régime alimentaire du muscardin en Lituanie, je crois qu'il s'attaquait à des grenouilles. Alors, pas n'importe quelle grenouille, la petite grenouille arboricole que vous connaissez bien, qui est la rainette.
Ah, d'accord. Je savais pas. Je ne l'ai pas lu, celle-ci.
Ouais,
d'accord.
C'est juste en passant, comme
ça,
on va manger ça. Il est aussi volontiers charognard, d'après leur publication.
Oui, ça j'en ai entendu parler. Ouais, tout à fait.
Alors, en agressant peut-être plus les oiseaux qu'il trouve.
Ouais, peut-être, ouais.
Il est capable de piller les nids comme l'écureuil, notamment des oiseaux cavernicoles.
Il rentre dans les trous des arbres pour aller faire ses nids. Et il est très probable qu'il aille manger les nids des œufs de mésanges ou des choses comme ça.
Alors moi, j'ai vu dans les publications scientifiques, Gaël Coblot, qu'on parle d'un séquential feeder, c'est-à-dire d'un animal qui va effectivement manger, en gros de manière assez opportuniste, ce qu'il est capable de trouver. Donc il doit y avoir des variations saisonnières importantes. À quelle saison on va trouver plus ceci, à quelle saison on va trouver plus cela?
Alors au printemps, on va plutôt le voir manger des protéines végétales, ça va durer de avril à juin à peu près, et après ça il va plutôt consommer des végétaux, des fruits jusqu'à la fin de la saison, voilà. Et puis avant l'hibernation, il va manger senelles, noisettes, des glands,
oui.
Voilà.
Il se gave davantage pour préparer l'hibernation,
voilà, il va manger des choses qui sont plus riches.
Et donc les petits animaux, c'est principalement en début d'année,
oui. Après la sortie d'hibernation.
En Limousin, il apparaît quand à peu près le muscardin?
La première apparition que j'ai constatée pendant mon étude il y a 2 ans, c'était fin du mois d'avril, début du mois de mai.
Donc c'est quand même assez tardif,
c'est,
en fait.
C'est assez tardif, oui. On avait eu par contre un hiver qui avait été extrêmement humide et froid. Peut-être que ça... Que ça a pu le pousser à dormir un peu plus longtemps.
Et il s'endort à peu près à quelle époque dans le Limousin?
Alors, dans le Limousin, c'est pas facile à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il doit être actif assez tard sur les années comme on a eu cette année, qui sont chaudes tardivement. Parce que j'avais posé des tubes nids. En septembre, j'avais rien dans mes tubes nids. Je les ai laissés jusqu'en décembre. Malheureusement, dans la littérature, ils disent qu'il faut suivre jusqu'à septembre et après, pas plus besoin. Et je voulais quand même les enlever pour pas qu'ils soient trop cassés. Et en décembre, quand j'ai enlevé mes tubes nids, j'ai trouvé 4 nids qui avaient donc été construits entre septembre et décembre. Donc, il peut être actif, à mon avis, sous nos latitudes, assez tardivement. En fait, il aime le froid, on peut le trouver...
Parce qu'il a une répartition relativement large, quand même. Il est présent de la Bretagne jusqu'à...
Jusqu'à la Grèce. Jusque vers le Caucase, si je me rappelle bien. Et il va remonter tous les pays d'Europe balkanique. Et on va le retrouver en Angleterre, jusqu'à peu près dans le Yorkshire. C'est le point le plus au nord.
C'est le point le plus au nord.
Et il faut qu'il y ait du boisement. Donc à partir en altitude, on ne va plus le trouver quand il n'y a plus de boisement.
Oui, d'accord. En Espagne, il est présent?
Non, il n'est pas présent en Espagne. Il n'est pas présent sur la péninsule ibérique.
Alors vous, avec le groupe mammalogique du Limousin, vous cherchez principalement les nids de muscardin pour attester de sa présence. Le nid signifie que vous avez probablement un reproducteur ou quelque chose comme ça?
Alors non, pas toujours, parce que le muscardin fait des nids...
Plusieurs nids.
Il fait plusieurs nids. Il fait un nid... d'hibernage, enfin d'hibernation. Il en fait même plusieurs. Il en fait même plusieurs. Il va faire après deux catégories de nids, les nids qui sont en dessous de 10 cm de diamètre et les nids qui sont au-dessus de 10 cm de diamètre. En dessous de 10 cm de diamètre, c'est généralement des nids pour un animal seul, soit un juvénile émancipé, soit un adulte seul.
C'est un nid d'été qui est construit généralement dans des buissons.
Voilà, c'est ça, exactement. Posé,
sur les branches basses, là.
Voilà, posé sur, à l'intersection des branches. Il n'est pas tissé aussi bien que, par exemple, le rat des moissons. C'est un peu plus lâche et c'est juste posé, c'est pas attaché. Et le nid qui fait plus de 10 cm de diamètre est généralement le nid de mise bas et d'élevage des jeunes. Donc c'est souvent la femelle qui le fait. C'est pas des animaux qui vivent en couple, hein, c'est des... ils ont des territoires qui sont un peu définis, puis les territoires se chauffent.
En tout cas, ce nid est plutôt posé là aussi dans la végétation basse.
Ouais, dans la végétation basse jusqu'à... Alors, on les trouve entre 30 cm du sol et 33 mètres de haut.
Ah, quand même, 33
ouais,
mètres.
Ouais, dans la littérature, on les trouve jusqu'à 33 mètres, ce qui est quand même, à mon avis, un... Déjà, on les cherche, à mon avis,
oui,
pas très souvent à cette altitude.
C'est une hauteur limite.
Voilà, c'est ça. Mais globalement, c'est entre 50 cm et 4 mètres dans la végétation.
Et là, ce sont des nids qui sont différents, bien sûr, de l'hibernaculum, qui lui est un nid d'hivernage qu'on retrouve plutôt posé sur le sol.
Au sol, au pied des tas de bois, ou sous les tas de bois.
Sous les tas de bois.
On peut aussi les trouver dans les mousses, au pied des arbres. C'est très très difficile à trouver, très difficile à trouver.
Là, ce nid lui-même, il est composé en fait d'une série de feuilles entremêlées, puis il y a de la mousse dedans ou...
Alors, il y a 4 types de nids qui ont été définis par un chercheur a beaucoup travaillé là-dessus.
Comment dort le muscardin.
Voilà, exactement. Et dans quoi est-ce qu'il s'abrite? Alors, il y a les nids... alors, c'était en anglais, alors, le nid en couche. Mmh. Donc, il fait une couche d'abord de feuilles, puis à l'intérieur d'herbes qui sont un peu découpées.
Ouais.
Après, il y a les nids mixtes qui mélangent les deux matériaux. Moi, les nids que j'ai trouvés en Limousin, c'était des feuilles, des lichens et puis des herbes qui avaient été toutes entremêlées.
Et alors, dans ce grand nid où plusieurs muscardins peuvent se loger, c'est aussi le cas donc, d'une femelle qui peut mettre bas. À quelle période à peu près elle met bas?
Elle met bas vers le mois de juin.
Il y a combien de jeunes à peu près?
4 en moyenne.
4 en moyenne, donc 4 jeunes. Est-ce qu'il peut y avoir une deuxième portée
oui,
en octobre?
Il peut y avoir une deuxième portée en octobre et dans certains cas extrêmes, on a même vu des femelles mettre bas 3 fois dans l'année.
D'accord.
Ça, c'est extrême.
Mais c'est pas un animal qui peut proliférer,
non.
De toute façon. Avec 4 petits, il y en aura peut-être un survivant pour l'hiver d'après, quoi. Mais c'est à peu
près
tout.
Oui. C'est ce qu'on appelle c'est un animal à stratégica.
Ce qui veut dire?
Ça veut dire qu'il fait peu de jeunes.
Voilà.
Mais qui vivent plus longtemps.
Mais qui s'occupent plus d'eux pendant
plus
un certain
temps.
Tout à fait. Par rapport à des animaux à stratégière comme les souris, qui elles vont proliférer en multipliant le nombre de portées. Alors c'est une espèce qui a une préférence aussi quand même pour des milieux un peu humides, on va dire. Elle aime bien être au bord de rivières.
Alors c'est ce qu'on lit parfois, et parfois on lit carrément l'inverse. Mais en tout cas, il a une répartition, enfin on peut le trouver dans des roselières. Et même parfois carrément au-dessus de l'eau, à plusieurs mètres du rivage.
D'accord.
Un peu comme le rat des moissons finalement.
Finalement oui.
Mais sinon... Il y a des fois où on voit...
On les reconnaît bien, le rat des moissons et le muscardin, c'est quand même pas du tout le même animal.
Ah oui,
le petit rat des moissons, c'est des rares rongeurs qui a une queue préhensile.
Oui, et en plus, il est minuscule.
Oui, il est vraiment
beaucoup plus petit
que le muscardin. Et puis, il a beaucoup moins de poils aussi.
Oui, et puis, c'est vraiment une petite boule avec une très longue queue fine.
Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Il a plus un faciès de souris que le muscardin, quoi, le rat des moissons, même si, effectivement, ses courtes oreilles ne le laissent pas toujours entendre. Son domaine vital, alors sur combien de zones à peu près peut-il se déplacer?
Alors, on voit dans la littérature que y a la densité de muscardin, c'est environ 1 à 3, 3-4 à l'hectare.
C'est
donc ça ne fait pas beaucoup de muscardin à l'hectare.
Oui, ça ne fait pas beaucoup. Et encore là, c'est dans les hectares où il est présent. Parce que
voilà, c'est dans les
hectares. Ouais. Il n'est pas.
Ouais.
En effet, ça fait qu'en groupe, pour un individu, il faut un demi-hectare au maximum. Moi, j'ai des chiffres sur les déplacements qui avaient été faits en 91 par Bright et Morris. Je sais pas
oui, Pat Morris, qui
voilà,
a énormément travaillé.
50 mètres à peu près pour une femelle, 70 mètres pour un mâle. Et puis des dispersions parfois jusqu'à 300
mètres. Même 800 mètres. En Lituanie, ils ont montré que les jeunes, alors c'est souvent les jeunes de la première portée, donc ils vont avoir plus de temps pour se déplacer, se déplacent jusqu'à 800 mètres de là où ils sont nés. Après, ils hibernent et après, ils sont sédentarisés là, généralement là où ils ont hiberné.
Alors, ils se déplacent que d'arbre en arbre?
Alors, ils se déplacent principalement dans les rameaux, mais ils peuvent quand même se déplacer au sol, même si...
Pour franchir des espaces ou
qui sont ouverts, voilà. Ouais, si par exemple les haies s'arrêtent et qu'ils veulent aller plus loin, ils peuvent quand même marcher au sol. Je pourrais pas vous dire sur quelle distance, mais on sait que les jeunes le feraient a priori plus volontiers que les adultes.
Alors Auguste Morel, en 1906, dans un livre qui s'appelle « La question sexuelle exposée aux adultes cultivés », parle du muscardin comme un animal purement monogame. En fait, on sait que dans les nids, on peut quand même trouver des fois plusieurs muscardins ensemble. C'est pas toujours les enfants de la nichée, c'est parfois des individus différents.
Je pense que c'est pas toujours les petits du même père. Enfin,
d'accord.
Elle fait pas ses petits.
En fait, on sait très peu de choses sur sa vie sociale.
Oui.
On semble qu'il puisse vivre quand même en petits groupes familiaux, mais on ne sait pas trop si l'animal va rester avec un mâle, la femelle avec un mâle, ou s'il y a au contraire deux, trois mâles qui passent.
Non, j'ai lu des choses qui montrent plutôt qu'ils ont des petits territoires qui vont se chevaucher, un peu à la manière des loutres.
D'accord.
Donc
un mâle
qui
ferait des excursions dans le domaine de plusieurs femelles. Quoi.
Ouais.
D'accord. Parmi ces prédateurs, il y a un animal que j'aime bien, c'est la genette, qui doit évidemment de temps en temps se rassasier de ce pauvre muscardin, notamment en Limousin, non ? Vous en avez des genettes ?
On a des genettes, oui, tout à fait. Mais probablement qu'elle doit pouvoir en manger. Mais heureusement, il va essayer de repérer des endroits, enfin là où il vit, c'est des milieux qui sont très impénétrables généralement. Ça le protège de tous les ronciers, les taillis très 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 denses, ce genre de choses.
Et puis bon, il n'est pas non plus en densité suffisamment importante pour que les prédateurs s'activent sur lui. Il y a la chouette-ulotte aussi qui peut.
Ah oui, alors la chouette-ulotte, ça marche bien quand on veut faire des pelotes de réjection et voir s'il y a du muscardin. On essaye de trouver des hulottes, puisqu'elle est forestière, et donc elle va plutôt chasser en milieu forestier, ce que la chouette effraie fait un peu moins. Donc,
alors la pelote de régurgitation de la chouette, c'est une pelote remplie de poils que l'animal recrache après avoir passé sa nuit à chasser et à manger, ou avant d'y aller, et donc c'est une mine d'informations, puisqu'il y a dedans tous les poils et tous les petits ossements que l'animal n'a pas digérés.
Et les dents surtout.
Et les dents des rongeurs.
Et en général, on utilise celle de la chouette effraie pour deux raisons. Parce qu'elle est un peu plus ubiquiste. Elle va avoir une diversité de proies qui va être importante.
Éclectique dans son alimentation, alors que la hulotte va être plus précisément
sur les
animaux forestiers.
Quand on cherche les animaux forestiers, c'est hyper intéressant. Et l'oiseau le plus important, je pense, le plus facile, où on trouvera le plus facilement du muscardin, c'est quand on a la chance d'en avoir, c'est la chouette de Tengmalm. On a disséqué des pelotes de tengmalm d'une loge qui avait été nettoyée dans le tas, on a trouvé du muscardin. Ce qui est quand même assez remarquable parce qu'il faut quand même disséquer quelques centaines à quelques milliers
quelques
de pelotes
milliers
de chouettes effraies
pour trouver une mâchoire de muscardin. Eh bien, nous restons ensemble, Gaël Coblo, pour raconter cette histoire fascinante de notre petit animal plein d'or, le muscardin.
Un petit lapin qui s'appelait Poupine avait rendez-vous avec sa poupinette. Ses parents ne voulaient pas qu'elle devienne sa copine, parce qu'en fait, Poupinette, c'était une belette. Thierry le chasseur est comme tous les chasseurs, il est con. T'en allais chasser, il aime les fleurs, connaît la forêt par cœur, il est con. Centré sur son gibier, Poupine lapin papouille l'arrière-train de Poupinette qui s'écrie « Oh, vas-y, fais-moi mal !» Ça réveille Bernadette, Bernadette, la vieille chouette qui bondit une belette, un lapin, c'est pas normal. Thierry le chasseur n'est pas un gros bourrin puisqu'il est con. Fort mal à tradition, si il écrase les fleurs, c'est à cause de son tout-terrain puisqu'il est con. Ducteur, attention, petit lapin, derrière toi, c'est toute la forêt qui commence à s'ébranler, prévenu par la chouette, voilà le papa de ta poupinette qui vient te coller une branlée. Thierry le chasseur a une grosse allure puisqu'il est con. Vaincu d'avoir vu une belette coller un pain à un tout petit lapin, il est con. Travaillé d'avoir pas pu sortir son fusil pour se payer une grosse boucherie puisqu'il est con. Croqué au commando spécial de son parti pour aller jeter des œufs pourris sur les cons. Grécistes écolos.
Les Vriegels racontaient l'histoire naturelle de Poupine la Lapine dans la nature. Nous revoilà sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité, et dans une émission faite pour tous les cortiqués du bulbe, science en liberté, parce qu'il n'y a pas de science sans liberté.
La domestique avec la servante, les guêpes essaînaient des guêpiers, les bourdons des nids, des bourdons, ils venaient tournoyer autour d'eux, les grillons invitaient les sauterelles à danser et les muscardins venaient rejoindre les souris. Voilà comment, au XVIe siècle, on nous décrit la présence de ce petit animal. Dans la réalité, il a été surtout connu à partir du XIXe. Rongeur arboricole, le muscardin affectionne en effet les forêts à sous-bois denses, il évolue plutôt dans la strate inférieure de la végétation, plutôt dans les taillis, et plutôt dans les noisetiers, les charmes, les ronciers et les clématites. Mais il apprécie aussi les lisières et les haies. Ce sont des écotones. Et je reçois pour cette émission de Science en Liberté une naturaliste avertie du groupe mammalogique et herpétologique du Limousin, Gaëlle Coblot. Parce que la haie reste un élément indispensable du paysage et de la nature. Qu'en dites-vous, Gaëlle Coblot ?
Je suis tout à fait d'accord.
L'arrachage des haies, le remembrement qui a morcelé la présence du muscardin et d'autres espèces, et la monoculture sylvicole vont donc constituer de véritables menaces pour cette espèce vulnérable.
Oui, tout à fait. On pense que c'est la première cause de régression des populations sur l'ensemble de son aire de répartition.
En effet, on sait que les continuités écologiques sont au cœur de l'actualité, les ministres nous en parlent de temps en temps, et le bocage qui rassemble des arbres et des haies champêtres est un des éléments majeurs de ces continuités écologiques, car ça permet la circulation des espèces entre prairies, forêts, zones humides et autres habitats. Et c'est justement dans ces haies qu'on va trouver notre ami le muscardin.
Oui, tout à fait. Alors la haie a de multiples usages. Elle va empêcher que le sol ne s'en aille.
Ça va permettre de limiter l'érosion. Oui.
Voilà, stabiliser le sol. Elle va aussi avoir une... Et ça, dans... On le constate quand même depuis plusieurs années. Elle va avoir un rôle de régulateur aussi climatique en gardant un petit peu de fraîcheur. Donc quand il fait très très chaud, au bord des haies, il y a toujours un peu d'ombre et de fraîcheur et donc l'herbe pousse mieux. C'est toujours à l'avantage de l'éleveur, par exemple, ou de l'agriculteur, de conserver une haie. Même si les rendements sont plus faibles au pied de la haie, ils augmentent un petit peu plus loin et donc il faut les conserver. Elle fait brise-vent.
Alors, il y a l'effet donc effectivement climatique qui avait été mis en évidence par Jean-Claude Lefeuvre dans son étude sur le bocage il y a maintenant très très longtemps. Et puis il y a cet effet brise-vent, vous avez raison.
Elle permet aux animaux aussi de s'abriter, alors les animaux que l'on élève, et aussi les animaux que l'on n'élève pas, les animaux de la faune sauvage, qui vont, pour certains d'entre eux, aller consommer les animaux qui consomment les cultures qui sont entre les... Donc il y a toute la chaîne alimentaire qui va aider, qui va se former dans ces...
L'origine du bocage est très ancienne. Est-ce qu'on sait à peu près à quand ça remonte ? Probablement autour de l'âge du fer, et c'est surtout à partir du XVIe siècle que le bocage va s'étendre et se présenter en France. Hein, la haie, alors la haie, c'est une définition simple, hein, c'est un alignement d'arbres, d'arbustes, souvent d'épineux et de branchages qui ont d'abord servi à clôturer ou à protéger les champs, les prairies et les jardins. La lisière ou la haie est constituée typiquement plutôt de trois zones, de trois ceintures, de trois strates. Alors, il y a la zone herbacée.
Oui, la strate arbustive, puis la strate arborée. Et en fonction de la diversité, de la densité, de l'épaisseur de ces strates, on va considérer qu'une haie est de plus ou moins bonne qualité en fonction de ce qu'on veut montrer.
D'accord. Les trois strates sont importantes pour l'équilibre même de la haie, puisqu'elles se répondent les unes aux autres. Les forestiers parlent souvent de l'ourlet, qui est la zone herbacée, le cordon, qui est plutôt la zone arbustive, et puis le manteau, qui serait composé par la strate arborée. C'est souvent assez dissymétrique, parce que la taille des arbres n'est pas la même que des petits arbustes. Dans le jardin, il y a aussi des haies.
Oui, alors des haies, souvent, malheureusement, qui sont monospécifiques. La haie de Thuya, par exemple, qui... d'un point de vue écologique, est assez peu intéressante.
Oui, c'est ça. C'est uniforme de Thuya ou de cyprès, d'ailleurs, ou même de laurier.
Elles sont
relativement tristes et, effectivement, elles vont mal s'intégrer au paysage, mais surtout, elles sont très peu accueillantes pour la faune sauvage. On n'y voit pas d'oiseaux. Et donc, en fait, les gens qui utilisent ce type de haie clôture font une erreur. Ça serait beaucoup plus efficace une haie normale avec d'autres espèces indigènes, comme par exemple l'aubépine, qui constitue aussi...
Le
prunelier, qui sont bourrés d'épines et qui empêchent, évidemment, tout autant le passage des visiteurs. Indélicats et qui s'adaptent mieux à l'environnement. Chez vous, c'est quoi comme type d'arbuste qu'il y a principalement dans le Limousin, de l'aubépine, du...
Alors nous, on a de l'aubépine, On a du noisetier.
Noisetier, évidemment.
Et voilà, beaucoup de noisetiers. On a des petits chênes aussi qui poussent. Voilà, on est sur un sol acide. Donc, on n'aura pas beaucoup de pruneliers. Mais après, on a aussi les ronces, les fougères aigles, qui sont emblématiques aussi de Limousin.
Effectivement, tout à fait emblématiques de Limousin. Vous avez des hêtres aussi dans votre coin, non ?
Oui, alors les hêtres, on va plutôt les trouver sur les plateaux Limousin.
D'accord.
Là où il y a moins de haies, c'est plutôt des massifs.
Plutôt autour des massifs.
Voilà.
D'accord. Tout ça, ça abrite évidemment une faune très variée. Il y a toutes sortes d'espèces qui sont capables d'être présentes.
Bien sûr.
La pigrièche.
Oui, on a beaucoup de pigrièches. Pigrièche écorcheur. Mais aussi celle, la tête rousse. Voilà. Après, on a aussi tous les cortèges de reptiles.
Ah oui.
Qui vivent près des haies. Couleuvre verte et jaune. Couleuvre à collier, les lézards verts, et puis les amphibiens. Il y a un amphibien en particulier qui apprécie les haies, c'est la rainette verte, l'arboréa, qui, si on lui coupe ses haies sur de trop longues distances, va péricliter.
Et vous avez aussi de la rainette méridionale.
On a de la rainette méridionale. Elle est un petit peu moins regardante. Et on la trouve chez nous, en Limousin, beaucoup plus au sud, plutôt vers le Brive.
Ouais, elle est mieux, elle, les zones plus humides, en fait, que la rainette arboricole. Alors la haie champêtre, c'est donc une championne de la biodiversité. On l'a vu, ça lutte contre les effets néfastes du vent, l'érosion, la dissémination des parasites aussi et des insectes pollinisateurs. Ça leur permet tout ça. Ça régule l'humidité.
Oui, tout à fait.
Ça peut empêcher des inondations.
Probablement, en stabilisant les sols et en régulant les
flux thermiques. Voilà. Oui. C'est donc important, ça peut aussi protéger les bâtiments, puisque finalement une haie à côté d'un bâtiment, ça permet de générer un nouveau microclimat favorable à la vie animale et à la vie des humains. Puis ça procure un refuge donc, pour beaucoup d'espèces. Et puis ça fournit des fruits. Ça fournit des noisettes, des mûres, des prunelles, de la tisane, des herbes médicinales, des champignons, etc., etc.
Et puis ça, moi je trouve que ça a un rôle esthétique également. On
n'en
parle pas souvent, mais l'esthétique du pays.
Ça structure un paysage.
Voilà.
Alors ça limite aussi la divagation du bétail.
Tout à fait.
C'est pourquoi souvent beaucoup d'espèces épineuses, avaient, comme l'aubépine ou l'épine vinette, avaient été choisies pour permettre la clôture. Ça fournit du bois. On sait qu'on pouvait faire au Moyen-Âge des fagots de bois à partir des haies, puisque la haie était utilisable pour ses branches en tout cas. Ça accroît la diversité du paysage parce que ça fait un effet particulier de multiplication de micro-parcelles, bien sûr, et ça va permettre de favoriser la présence des oiseaux granivores, alors qu'on peut souvent penser que certaines espèces sont nuisibles. Là, grâce aux haies, elles vont au contraire bien se répartir dans l'environnement. Et puis, à contrario, c'est surtout la destruction des haies à partir du remembrement, notamment dans les années 60, qui ont permis de comprendre toutes les difficultés, y compris le fait que les haies faisaient de l'ombre pour le bétail. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, évidemment, ça permet de préserver les cultures et de limiter le dessèchement. Et ça permet aussi de limiter les nuisances et notamment aussi les pollutions, puisque la haie va permettre de capter tout un ensemble de polluants, notamment des automobiles en bord de route, etc.
Oui, puis elle fait écran aussi.
Elle fait écran, oui.
Mais oui, tout à fait.
Alors, en réduisant l'érosion, donc, avait amélioré l'infiltration des eaux de pluie. On sait... Par exemple, que dans les bassins versants, ça c'est un calcul qui avait été fait sur le bocage, les crues sont 5 à 6 fois plus intenses lorsqu'il n'y a pas de haies, l'eau met un peu plusieurs heures à s'évacuer, alors que, évidemment, quand il y a des haies, ça va évidemment être beaucoup plus intéressant puisqu'on va avoir un rôle d'éponge. Vous l'avez dit tout à l'heure, la haie est un piège à énergie, hein, avec une fonction calorique jointe à l'effet coup de vent. Ça peut même améliorer les récoltes. Pensez à nous, messieurs les paysans. Alors, ce qui va compter dans la haie, c'est quand même son ancienneté. Il y a beaucoup de haies anciennes.
En Limousin ? Alors, ça dépend des secteurs. On a des secteurs où les haies sont anciennes, mais traitées de manière un peu violente. Elles sont taillées à 1,20 m de haut, 1,50 m de haut.
Ah oui, là, c'est très violent.
En cube. moi, personnellement, je n'appelle pas tellement ça une haie. Mais voilà, après, c'est vrai qu'il y a aussi différents types de haies.
Oui.
On a des alignements d'arbres simples. C'est l'ONCFS qui a fait toute une typologie des haies dans le cadre de son étude des pôles bocage, au pôle bocage. C'est assez intéressant. Donc, on a les haies plus ou moins dégradées en fonction de si elle est trois strates ou pas, si elles sont larges ou pas. Voilà. En Limousin, on peut avoir des haies un petit peu anciennes. On voit qu'il y a des arbres de Auger qui sont un peu vieux dedans. Et les arbustes au milieu ont été laissés, ont eu la liberté de pousser. Par contre, ce qu'on constate malheureusement, c'est qu'elles deviennent de moins en moins pérennes. Avec une de mes craintes personnelles, c'est que le bois énergie, qui peut être une bonne chose, soit maintenant
une
aussi prétexte voilà, à raser tout pour aller faire de la plaquette. Je pense que c'est bien de partir sur le bois énergie, mais qu'il ne faut pas faire les erreurs qu'on a pu faire par le passé en développant des choses qu'on dit écologiques. Il faut qu'on réfléchisse au gisement de bois et qu'on prévoit toujours, dès qu'on prélève, de replanter.
Puisque le remembrement était surtout pratiqué en France dans les années 60 jusqu'aux années 80, mais après il est bien revenu malgré tout dans les années 90, puisqu'on a voulu regrouper toujours des superficies soi-disant trop petites et réduire les coûts d'exploitation. Sauf qu'à force d'arraser la nature, on finit par évidemment abîmer complètement les possibilités d'échange. Alors on a souvent manifesté devant tous ces techniciens agraires qui abattaient des forêts entières. Et puis petit à petit, on a vu quand même des gens replanter des haies. Les essences les plus communes actuellement dans les haies de France, c'est le chêne, le sorbier, le saule, l'églantier, le sureau, bon, beaucoup de choses, quoi, en fait. Il y a beaucoup de variations.
Au moins, c'est des arbres de chez nous.
Voilà. Et l'arasement des haies a une cause particulière, c'est la modernisation, entre guillemets, la modernisation de l'agriculture, puisque l'objectif, c'était de faire entrer dans des petits champs des gros engins agricoles. Alors, à l'université de Rennes, on avait évalué environ 2 millions de kilomètres la présence de haies à la fin du 19e siècle en France, et on serait aujourd'hui autour de 720 000 kilomètres, 750 000 kilomètres à peu près.
Oui, ce qui est sûr, c'est que comme pour les zones humides, comme pour les mares, il y a eu une régression depuis les années 50 qui a été hyper importante.
Écoutiez Andodrome, c'était une interprétation zygane de la vie discrète et nocturne.
Je suis toujours avec Gaëlle Coblot pour discuter ensemble de ce petit animal fort secret, le muscardin. Alors Gaëlle, comment les muscardins font pour entreprendre les muscardines? Ils suivent les haies.
Tout à fait, ils se déplacent le long des haies et puis ils vont les chercher.
Voilà, et il faut toujours donner 3 noisettes aux enfants, est-ce que vous savez ça? Une noisette pour ne plus avoir faim, une noisette pour ne plus avoir froid, et puis la 3e noisette, c'est un mystère, c'est pour faire un voyage et pour aller au bout du monde. Bon, dans tous les cas, on va essayer de défendre notre petit muscardin, et probablement qu'il faut commencer en restituant les arbres, et replanter plutôt des arbres de nos régions.
Des arbres qui survivent mieux chez nous, sans trop d'eau, sans avoir besoin d'un apport particulier en eau, effectivement. Et puis surtout qui peuvent être utilisés par les animaux de la faune locale.
Et qui seront même génétiquement adaptés à la faune locale, ce qui leur permet évidemment de mieux résister à tout un ensemble de maladies. Alors la présence du muscardin, qui est quand même une espèce inféodée aux strates buissonnantes, on sait que l'animal peut se disperser, c'est-à-dire aller courir la muscardine, à partir des petites strates arbustives, parce que les haies constituent finalement un effet corridor. Alors qu'est-ce que c'est ça, un effet corridor ?
Eh bien c'est l'effet corridor, comme son nom l'indique, c'est l'effet qui permet, enfin c'est un
effet écologique
qui permet aux animaux de se déplacer d'un point A à un point B à travers un chemin qui leur convient, et le muscardin étant une espèce arboricole, il va lui falloir des chemins d'arbres, et les chemins d'arbres, ça s'appelle des haies.
Voilà, les haies, en fait, favorisent en quelque sorte le passage d'une zone à l'autre, que ça soit une zone forestière à une autre zone forestière, ou d'une zone de haies à une autre zone de haies. Alors ça va évidemment favoriser les échanges de gènes, entre les populations de muscardins, qui sont évidemment parfois très isolées, et qui ne peuvent se promener que d'arbre en arbre. On connaît à peu près les distances qui séparent des populations
Les distances en génétique ou les distances en mètres ?
Les distances en mètres ou les distances génétiques, comme
alors,
vous l'entendez.
Je sais qu'une population de muscardins peut se maintenir dans un boisement de 20 hectares, à peu près. Et ça suffirait 20 hectares au minimum pour... il faut 20 hectares minimum pour entretenir une
Ça, c'est pour un boisement.
Mais, et donc, si jamais ce boisement est rattaché à un autre boisement par une haie, cette haie va servir de corridor, mais elle ne va pas servir que de corridor. Elle va aussi servir de zone de reproduction si jamais elle est assez riche et assez dense, et si elle permet en fait de jouer le rôle du boisement intermédiaire entre les deux boisements.
Oh, les petits coquins, voilà. C'est là qu'ils se rencontrent. Je savais bien qu'on pouvait trouver des problèmes, car en effet les corridors végétaux vont favoriser l'échange des gènes, c'est-à-dire permettre à des partenaires non apparentés et même éloignés génétiquement de trouver leurs propres amoureux, parce que le choix quand même le sexuel le plus fréquent chez les espèces pour qui le désir sexuel provient avant tout d'une préférence pour des systèmes unitaires différents, c'est évidemment de chercher un individu différent d'elle. Alors ce sont jamais les meilleurs gènes, mais des gènes différents qui rendent amoureux. L'amour privilégie ainsi toujours la différence des systèmes immunitaires des amants. Mais il y a d'autres effets que la haie va faire, c'est notamment un effet dit écotone, un effet lisière ou un effet bordure. Alors c'est parce qu'en fait quand on est à présence de deux milieux, ça en fait comme un troisième quoi.
Tout à fait, ça multiplie les possibilités.
Donc on peut dire que 1 plus 1 égale
3.
3. Parce qu'entre le boisement et le champ, il y a tout le milieu qui participe de leur interaction et qui est une source de biodiversité, notamment en nombre d'espèces.
Oui, tout à fait. Il peut se servir de la haie comme d'un habitat à part entière. Il n'est pas obligé d'être inféodé à un boisement. Même si, a priori, quand il y a des boisements avec des sous-bois denses, attention, et ce qui arrive de moins en moins souvent, oui. Parce qu'on aime bien les jardiner, il va préférer être dans ces milieux-là qui sont presque plus en trois dimensions qu'en deux dimensions, si on veut, comme le corridor, comme la haie. Mais effectivement, ça peut être une zone source où la population va se développer et donc essaimer, se disperser vers d'autres
lieux. Parce que lorsque monsieur et madame Muscardine se sont mis ensemble, après elles ont fait des petits, les petits, il faut bien qu'ils bougent, qu'ils partent. On a donc affaire à des migrants, sans papier d'identité ou demeurant, mais qui vont être capables de partir grâce à cette haie et de branche en branche, de gagner ainsi d'autres milieux et d'autres lieux. De passer un petit peu de temps à terre, je pense qu'un grand champ neutre, ça lui fait peur.
Non, il va pas traverser un grand champ de plusieurs kilomètres de long. Donc effectivement, ça les contraint à se déplacer suivant certains linéaires, ce qui est d'autant plus embêtant quand les haies disparaissent, c'est que du coup, effectivement, ces mouvements sont stoppés.
Alors qu'il s'agisse du campagnol ou du mulot, ils jouissent aussi d'une réputation fondée de ravageurs et de nuisibles. En cause, leur goût immodéré pour les plantes de nos grasses prairies et pour les légumes de nos potagers, assaillis de coups d'incisives meurtriers. Est-ce que le muscardin est aussi accusé de faire des dégâts ?
Alors, en France, non. Et d'ailleurs, personne ne connaît le muscardin.
C'est un avantage.
Voilà. En fait, on ne le connaît pas parce qu'il ne fait pas de dégâts. Souvent, malheureusement, on connaît les animaux qui nous portent préjudice. Par exemple, le loir qui vient manger les pommes ou le lairot qui vient manger les pommes.
Qui
se font dans les maisons, qui font du bruit, qui abîment la laine souvent de verre, enfin les isolants, qui crient, voilà. Donc, on les connaît, ces deux-là. Mais par contre, le muscardin qui ne rentre pas dans les maisons et qui ne va pas manger... les pommes, on ne le connaît pas. Alors, il peut manger des framboises. Et du coup, parfois, alors en Allemagne et puis dans certains pays de l'Est, il va dans les cultures de framboisiers.
Alors, il s'emploie quand même activement à la dispersion des graines, malgré tout, comme beaucoup de rongeurs. Tout ce qu'il ne finit pas, tout ce qu'il ne mange pas, peut finir en repoussant ailleurs. Et donc, c'est une action qui est très importante, puisque, un peu comme le jet plante des chênes, on peut dire que notre muscardin participe de l'écologie du noisetier, non pas parce qu'il oublie des réserves, mais parce qu'il en fait tomber un peu partout de temps en temps, et qu'il mange aussi des fruits.
Le groupe Poncassan reprenait Maria Rural, une chanson très populaire de Harlan Sioux, assassinée durant la révolution sandiniste. Vous êtes, nous sommes sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste et dans Science en Liberté, une émission pour une science critique qui vient nourrir toutes vos petites cellules grises.
Nos petites cellules grises, comme la couleur de notre ami le Léraud, car nous connaissons trois espèces de loirs qui, comme la marmotte pendant l'hiver, dorment. Le loir est le plus gros, le muscardin le plus petit. Ah, c'est ce que racontait Buffon dans son Histoire naturelle de 1785. Et c'est presque vrai, parce qu'il existe aussi le lérotin commun, présent plutôt de la Suisse jusqu'au Japon, et puis le loir de Roque, qui vit plutôt en Grèce et en Bulgarie. Mais à part ça, on a chez nous...
le muscardin. Le Léraud et le Loir gris.
Qui sont en fait les seuls guiridés de France. Alors la répartition du Loir est différente de celle du muscardin, du Léraud aussi. Le Léraud, c'est présent à peu près comment en Europe?
Alors le Léraud, c'est le guiridé qui a la plus faible aire de répartition chez nous, enfin en Europe. Il se répartit plutôt... alors ça, c'est une bonne question.
Non, mais à peu près.
Plutôt sur la moitié... sud de la, les deux tiers sud de la France, il va être beaucoup plus fréquent. Et je crois même, mais alors faudrait que je vérifie, qu'on le trouve dans la péninsule ibérique.
Alors le Léraud, oui, c'est une espèce donc de rongeur nocturne, là encore, qui ne sort que la nuit. Il est plutôt rare quand même de tomber sur du Léraud commun, même si on en voit de temps en temps dans les jardins, dans les
maisons.
Et parfois dans les maisons. Alors sa fiche d'identité, c'est quoi Léraud?
Alors c'est un rongeur de taille moyenne. Il doit faire peut-être une 80 grammes, 120 grammes.
À voilà. Peu près, oui.
Il est couleur beige, marron clair sur le dos. Et surtout, ce qui va le différencier de ses deux cousins, c'est qu'on l'appelle aussi le bandit masqué. Il a un trait noir sur les yeux, comme Zorro. Et sa queue est assez fine, assez longue. Et elle se finit par un petit pompon foncé, noir.
Voilà, tout à fait. Noir et blanc, et des poils tout à fait intéressants. Qui peuvent d'ailleurs se casser ou se couper. Ce sont des animaux qui sont capables d'autotomie.
Tout à fait. Toutes les trois espèces sont capables d'autotomie caudale. Donc, ils peuvent couper la peau grâce à des petits muscles, un peu comme les lézards. Hein. Sauf qu'eux, ils ne coupent pas les vertèbres. Ils coupent juste la peau qui va coulisser le long des vertèbres comme une petite chaussette. Ça leur permet d'échapper à leurs prédateurs, mais seulement une seule fois, puisque ça ne va pas repousser. Et donc, les vertèbres qui sont à nu vont finir par sécher et puis tomber. Donc, ils ont une chance de plus.
Alors, c'est un animal qui est aussi un rongeur et qui a de bonnes incisives, ma foi, qui lui servent à manger des baies, des fruits.
Des pommes, des noix. Il adore le chocolat, même si c'est pas bon pour lui. Moi, j'en avais dans ma maison et il avait mangé du chocolat de Pâques.
Ah, d'accord, le pauvre. Quel pauvre animal, être obligé de manger du chocolat. Quel scandale. Donc, c'est plutôt omnivore, on va dire. Hein. Ça mange
c'est
des
un
graines,
omnivore.
Voilà.
Oui.
Des insectes aussi.
Ça mange des insectes et des petits oisillons.
Et ça peut même s'attaquer à des mulots.
Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais.
Donc, quand on a du lérot dans son grenier, c'est bien parce qu'on n'aura pas trop de rats ou de mulots, ou inversement,
ouais.
Si on a des rats et des lérots,
ils s'arrangent entre
eux. Ouais. Voilà. Alors, il vit souvent autour des arbres fruitiers, il a besoin des arbres fruitiers, c'est plutôt un animal qui vit autour des vergers ou des arbres fruitiers naturels. Hein.
D'où son nom en anglais, en fait. Le Garden Dormouse, c'est son nom. Le Loir des
le
Jardins.
Loir des Jardins, voilà. Ses déplacements se font aussi souvent d'arbre en arbre.
Oui.
De support en support, rarement à terre. Alors, il a une seule portée par an.
C'est possible, oui. Je connais un petit peu moins le lérot, qui est bizarrement l'espèce la moins étudiée de tous les gliridés.
Ah tiens, c'est étonnant.
Alors qu'on a l'impression qu'on le voit assez régulièrement. Dans les maisons, je sais qu'en Alsace, par exemple, il y a énormément de lérots. Et c'est l'espèce, si on regarde toutes les publications sur les gliridés qui sont faites, c'est l'espèce qui est la moins étudiée.
Alors c'est aussi une espèce qui va hiberner hein, de toute façon l'hiver, et en fait les portées sont quand même très rares, oui, une portée par an de 3 à 4 petits, on peut pas dire que ça soit un animal qui prolifère, en tout cas il prolifère beaucoup moins que les mulots ou que les rats, et donc il peut souvent passer son hiver dans un terrier ou dans un nichoir.
Ou des fois dans les caves des maisons.
Ou des fois dans les caves des maisons, dans les combles aussi.
Ouais, ouais.
Alors son autre copain c'est le Loir.
Oui, qui est un petit peu plus gros.
Oui, largement plus gros, voilà. Déjà, on a pas loin de 150 à 200 grammes pour
oui.
un loir
adulte,
en bonne santé. Quoi.
Voilà, qui est gris sur le dos, avec un ventre blanc, une queue qui est très très touffue pour le coup, presque un peu moins touffue, mais comme un écureuil, donc avec des longs poils, tout pareil, qui peut se casser, et qui font des petits, qui vont naître souvent plutôt en fin d'été, 3-4 par portée à peu près. Ceux qui habitent chez moi, ils font 3 bébés.
Alors lui aussi, il a un masque de bandit, le Loir.
Il a des petits cercles
noirs autour des yeux, on dirait des yeux au beurre noir.
Voilà.
Plus
tout à fait.
Que ça.
Mais avec des petites oreilles, et ils poussent des cris perçants en fin d'été. Et quand on marche en forêt et qu'il y a du Loir, on les entend.
Alors c'est grâce au Loir qu'on a découvert que les glandes qui sont sur les pattes arrière de l'animal permettent de marquer le sol et d'identifier des sentiers par lesquels les individus peuvent passer. Ça veut donc dire que de toute façon, ils peuvent suivre après leurs voisins, leurs copains, puisqu'ils savent qu'un tel est passé par là.
Tout à fait, et en plus, ils peuvent vivre un petit peu en groupe. Alors les gens qui nous appellent à l'association pour nous dire « Au secours, j'ai 40 Loirs chez moi », bon, au début, on se disait « Oui, 40, c'est peut-être un peu excessif ». Et non, des fois, il y a bien 40 loirs dans les maisons. Et ça ne suffit pas d'attraper les loirs ou, pire, de les tuer. Ça ne sert à jamais à rien pour se débarrasser des loirs. Puisque comme ils savent par où les autres sont passés, et quand surtout il y a beaucoup de passages, ça doit sentir très fort. Donc, une maison qui reste accessible, elle reste accessible toujours. Et en plus, elle semble accueillante. Donc, il faut choisir quelque chose d'autre.
Ouais. Alors, il va se défendre en criant beaucoup, en faisant des petits cris aigus. Ça bouge beaucoup hein, dans la nuit, les loirs. Hein.
Ça bouge, ça jette des noix, ça joue, ça crie, ça saute. Oui.
Alors, il va aussi avoir un nid d'hibernation dans le sol entre 15 et 60 cm de profondeur à peu près. Et puis, bien sûr, c'est une hibernation encore très longue. D'où la phrase « dormir comme un loir ». Chez vous, il hiberne longtemps ?
Chez nous, il hiberne. Bah là, ils sont encore actifs. L'année dernière, ils étaient actifs même en novembre, puisque j'avais la chance de les entendre crier et gesticuler. Et ils sont sortis à peu près au mois d'avril, avril à peu près, je pense.
Oui, c'est donc quand même une durée relativement courte. Il mange principalement, lui aussi, des fruits ?
Des fruits, pareil, des oisillons aussi. des petits vers, des insectes, des fruits, des baies, des feuilles. Voilà, il est omnivore, comme
les
autres.
C'est encore un omnivore, avec beaucoup de fruits secs quand même en priorité. Mais bon, il ne va pas trop démolir les fruits de votre verger. Normalement, il laisse quand même un peu la paix à tout ça. Mais enfin, il mange un peu de tout, hein, prunes, pommes, mirabelles.
Mais ils aiment bien les noix.
Les noix. Alors ici, on n'en a pas en Maine-et-Loire, on n'en a pas de Loire. Il est plus à l'est, on va dire qu'il atteint la région de Tours à peu près. Hein.
Ouais.
C'est à peu près ça, sa répartition. Pourquoi est-ce qu'il nous boude, nous, dans l'ouest?
Eh bien, peut-être, il faudrait voir d'un point de vue historique. Comment étaient les forêts? C'est vraiment un animal qui aime les futaies, enfin les forêts qui sont assez matures, contrairement au muscardin par exemple, qui va préférer les premiers stades forestiers. Le Loir, il va préférer, semble-t-il, les stades plus matures. Et alors, ce qu'il aime bien aussi, c'est les hêtraies. Parce qu'on a remarqué, notamment en Angleterre, où c'est une espèce invasive, il a été introduit dans une ou deux forêts, que les années où il y a des faines en abondance, les populations de Loir explosent. Peut-être que s'il n'y avait pas de forêt qui lui convenait, eh ben,
oui,
il ne venait pas. Donc c'est peut-être pour ça que dans tout le nord et l'ouest de la France, on n'en a pas.
Alors puisque vous avez commencé à aborder le problème des statuts de ces espèces, on va dire quand même que le muscardin, le loir gris, le lérot, ils ont une place millénaire dans les réseaux trophiques et ils jouent un rôle très important dans l'équilibre écologique, mais qu'ils sont bien des espèces vulnérables et à ce titre, ils bénéficient d'une protection légale en Europe. Ils sont en annexe 3 de la Convention de Berne, avec une protection de tous les gliridés, et que par conséquent, on s'expose à une amende, voire à une peine de prison, si on s'amuse à tuer les gliridés de France.
Et surtout le muscardin, d'ailleurs, qui est en article 2. Donc on n'a pas le droit.
On n'a même pas le droit de le transporter.
Voilà, c'est ça, exactement.
C'est pour éviter que quelqu'un ait plein de muscardins dans sa poche en disant oh, je les ai trouvés. Là, il n'a pas le droit de toute façon, c'est comme ça. Alors en dépit de cette protection officielle, on va dire que la convention est quand même largement bafouée, puisqu'on vend des pièges, des tapettes, des appâts empoisonnés dans toutes les jardineries, toutes les drogueries, et même sur Internet, au mépris des lois européennes et avec l'accord tacite du ministre français de l'Agriculture et des Forêts. En France, l'extermination des animaux sauvages est d'ailleurs beaucoup plus qu'un sport, qu'un délit, hein, malheureusement, et la plupart des dératiseurs vont proposer spontanément de vous débarrasser de vos loirs, de vos lérots et autres muscardins, et des animaleries, celles où on vous vend les souris blanches, là, les hamsters et les lapins nains et les cochons d'Inde sont les premiers à diffuser des moyens d'extermination contre les rongeurs. On se demande pourquoi ils vendent des souris blanches et des hamsters, qui sont aussi des rongeurs, mais ils appellent ça, eux, la lutte contre les rongeurs. Il faut ajouter, évidemment, que ces poisons devraient être totalement proscrits, parce que ces rodenticides s'infiltrent dans la chaîne alimentaire, et évidemment, l'utilisation des poisons devient nocive, même pour les prédateurs du muscardin, du lérot ou du loir, comme la genette, la belette et les autres fouines. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour protéger vraiment le muscardin?
Déjà, il faudrait le faire mieux connaître. Je pense que la protection, ça passe aussi par une prise de conscience de la population, du grand public, et que si on sait ce qu'est un animal, on a peut-être plus tendance à vouloir faire en sorte qu'il disparaisse pas. Donc il faudrait déjà mieux communiquer sur lui, sur aussi ses habitats, d'autre part. On protège le muscardin, on protège la haie. Moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'aime beaucoup les haies. Pour tous leurs usages et pour tous les animaux qu'elles peuvent abriter. Et puis, peut-être aussi faire changer la législation et interdire tous ces anticoagulants.
Tous ces moyens d'exterminer.
Voilà, c'est ça.
Et donc, si je comprends bien, il suffit de vous appeler, Gaël Coblot, pour que vous veniez raconter avec passion la vie du muscardin dans quelques régions de France que ce soit.
Voilà.
Puisque vous êtes venu depuis votre lointain Limousin jusqu'en Anjou pour parler de tout ça. Eh bien, je vous remercie, Gaël Coblot, d'avoir quitté votre Limousin, d'être venu dans les studios pour présenter la vie de ce magnifique petit rongeur. Et je vous souhaite de continuer avec force à protéger toute notre faune autochtone, petit crapaud compris.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Relatif, la couleur de tes tifs, ta peau relative, vive les couleurs vives, tout est suspectif, tout est capiton pif, ta bouche suspective, et vive tout ça que tout ça vive.
Black, yellow, red.
Black is beautiful, yellow is wonderful, red is very nice. Let me draw my life with the colors I like. Let me please, let me do. Let me pink, let me blue. Let me tumble, let's show.
yellow is wonderful, red is very nice. Let me tell my life. Relatif, faudra faire les modifs de tête il fait piton pif,
faudra
tailler dans le vif,
récapitulatif,
tu dois les vérifier, vive les couleurs, vive, tout est pas négatif et tout est pas positif, alors en positive, mais vive vivement qu'on y arrive, tout est un autre actif, mais tout est rétro-réactif, faudra qu'on s'active pour que tout ça vive. Very nice. Let me show my life with the colors I like. Let me please, let me do. Let me pink, let me blue. Let me dream what is true. Yellow is wonderful. Red is very nice. Let me show my life. Et maintenant, j'ai le grand honneur de vous présenter les choristes. À ma gauche, Coca. Au loin là-bas, c'est Simone. Le grand Big et aussi Jean-Luc.
Les têtes raides affirmaient « Black est vraiment beautiful et on les comprend ».
Arrivé au terme de cette émission, nous avons vu comment le muscardin s'avérait un témoin de la diminution des crues. Oui, en laissant notre petit radoré courir de buisson en buisson, de haie en haie, nous éviterions bien des problèmes d'inondation. Voyons cela. S'il est un phénomène naturel assez facile à prévoir, c'est bien l'arrivée des crues. En amont, l'augmentation des précipitations provoque toujours un écoulement des eaux le long de la pente la plus simple. N'importe quel obstacle réoriente le flux et n'importe quel sol imperméabilisé l'accélère. Depuis des millénaires, la polyculture était pratiquée. Et lorsqu'un champ était dépourvu de végétation, en hiver, la parcelle en friche, se trouvant en contrebas, pouvait contribuer à freiner l'eau de ruissellement et à l'absorber. Mais voilà, le remembrement a exigé une destruction des haies et du bocage pour répartir les terres et créer des chemins d'accès. En Bretagne, les remembrements agricoles ont supprimé 60% des haies. En Normandie, 30% des arbres et des arbustes qui constituaient ces clôtures naturelles ont été arrachés. Ce véritable massacre de ces forêts linéaires constitue encore aujourd'hui un des travaux les pires aux conséquences hydrauliques sans précédent. Pour ne rien arranger, de nombreux travaux ont été entrepris pour recalibrer les ruisseaux, supprimer les méandres et les zones humides et les adapter à des modifications du bassin versant, mais surtout à l'agro-industrie. Les cours d'eau sont des écosystèmes fragiles et leur transformation aggrave l'érosion et le ruissellement. Les sols agricoles ne peuvent même plus absorber les produits phytosanitaires ajoutés en quantité toujours croissante. Sans les haies qui stabilisaient l'eau, les précipitations se mettent en mouvement et ruissellent vers le bas. Au contraire, les éléments qui compartimentent le paysage, tels que les haies, bloquent l'eau avant qu'elle ne prenne trop de vitesse. Alors la disparition des haies a aggravé les effets de cette forte pluviométrie. Faute d'obstacles, le ruissellement des eaux sur les zones pentues s'accélère. Voilà pourquoi la rareté de notre petit muscardin est un témoin de la folie des agro-industriels. Alors oui, il faut toujours aimer les noisettes et nos rébellions seront parfaites.
Auditrices, auditeurs intrépides, vous pouvez nous contacter sur l'email de l'émission sciencelibre@gmx.fr, science libre au singulier. Et vous retrouverez toutes nos émissions sur notre site internet hébergé par Trou Noir, Science en Liberté. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les seconds lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et toutes les idéologies qui l'accompagnent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté animée par Thierry Laudet avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. La musique d'introduction était d'Hicham Chahidi. Nous allons conclure sur Riposte par Raymond et les Blancs Mecs.
Ils veulent définir ton avenir. Ne te laisse pas endormir. Un seul mot d'ordre.